Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado sortie de zone saison 5, épisode 48 de ce lundi 25 mars. Avec nous les gars de la presse, Guillaume Lefrançois qui est là. Salut Guillaume.
Salut Guillaume.
Nous avons Alexandre Pratt. Comment ça va Alexandre?
Ça va Jérémy.
Alexandre était malade récemment, ça va-tu mieux là?
Ça va mieux.
Fait que là t'as une grosse voix. T'es rendu comme Richard Labbé, t'as une grosse voix.
Oui, on dit ça en permanence.
On va se faire des FM ensemble. Et pour le 88.5 FM, Stéphane White qui est là. Salut Stéphane.
Salut les gars!
Messieurs, débutons avec cette... Ben, juste dire aux gens, là, nous aurons l'opportunité de parler de l'Avalanche du Colorado. On va se parler de Jonathan Drouin qui connaît... écoute, c'est la renaissance de Jonathan Drouin avec l'Avalanche. On va se parler des Capitals de Washington, Ovechkin, qui se met à marquer des buts. Les Capitals sont en position de faire les séries. On va se parler de John Tortorella, encore une fois, qui boude les journalistes et qui décide de faire la grosse tête et de quitter un point de presse. Est-ce que la Ligue nationale doit intervenir dans tout ça? On va en parler, puis on va se parler de la LHJMQ, la Ligue d'hockey junior maritime du Québec. À chaque fois, je me pratique. Mais moins
bien fait.
Merci. Moins de combats cette année, plus d'assistance. Est-ce qu'il faut faire un lien entre les deux? On va se parler de tout ça. Mais revenons premièrement sur une première victoire de ce long voyage de 5 matchs sur la route. Le Canadien qui n'emporte 5-1 face au Kraken de Seattle. Tour de table, dans un premier temps, Guillaume. Victoire de 5-1. T'as écouté le match?
Par moment, parce que j'ai également ma très
toi, t'as fait,
très fameuse ligue du dimanche.
OK, mais toi, t'as fait le Canada.
Exact,
c'est ça. Fait le Canada.
Calgary, Edmonton, Vancouver.
OK.
Ce que j'ai vu, par contre, fait saillant, début de match, à gauche, à droite, et surtout, analyse statistique, et je remarque que c'est... je n'ai jamais vu... Moi, ce que je regarde toujours après les matchs, c'est le site Natural Stat Trick qui mène une charte de comment qu'on appelle ça, une heat map, là,
d'opportunité, là.
Bref, c'est une carte qui localise, dans le fond, les tentatives de tir sur la patinoire dans la zone offensive. Ça, je regarde systématiquement, même si c'est un match que j'ai suivi de près sur place, pour me faire une meilleure idée. Et en général, ce que tu vois, c'est plus c'est rouge autour du filet, évidemment, plus ça signifie qu'il y a eu des chances de qualité, des tirs de près qui ont été à l'intérieur, tout ça. Et je n'ai jamais vu une distribution aussi uniforme dans la zone offensive qu'hier. En gros, ça veut dire que le Canadien tirait beaucoup de l'extérieur, beaucoup en périphérie, tout ça. Alors ça indiquait finalement ce que les faits saillants indiquaient aussi, c'est-à-dire très peu de chances de qualité, tandis qu'à l'inverse, bien évidemment, Kevin Primo avait mangé ses
était solide.
Avait mangé ses cornflakes.
37 lancés contre Primo, 36 tirs bloqués. On va y revenir sur Kevin Primo. Alexandre, de ton côté, comment tu vois cette victoire-là? Enfin, une victoire pour Trevor Letoski, qui est coach par intérim.
Oui, tout à fait. Puis c'est une drôle de victoire. Vraiment, de tous les matchs cette année, je trouve que c'était le plus étrange. À un moment donné, ça faisait 10 minutes que le jeu était en cours, puis la Canadien avait 2 tirs, c'était 2 buts.
Exact.
Même à la mi-match, je pense qu'il y avait 4 buts sur 8 tirs, chose comme ça. Ouais. En plus, c'était pas des tirs avec un haut degré de chance de marquer. Là, pour la plupart, il y en a eu que oui, mais pas tous. Ça a été des tirs déviés, des écrans, mais au moins... Le Canadien est allé vers le filet, ce qu'il faisait pas nécessairement dans les matchs précédents. Fait que ça, j'ai aimé voir ça. L'autre chose, ça fait quand même des semaines, des mois même qu'on dit que le Canadien manque d'opportunisme. Hier, il a été opportuniste.
Exact.
Dans les moments où il y avait une petite chance, il a compté des buts, mais tu sais, on se comptera pas de mensonges. Là. Quand on regarde les buts anticipés, hier, c'était 4-1 pour Seattle. Le Canadien a gagné 5-1. Ça veut dire que d'un côté, il y a un gardien qui a bien fait, puis de l'autre côté... le gardien n'a pas fait les arrêts qu'il aurait
dû. Disons qu'offensivement, ça demeure très, très tranquille pour le Canadien, même si c'était une récolte de 5 buts, je vous ai de tous ces buts-là. Oui, le but de Matheson était super beau, puis c'était une belle lecture de jeu, toute une montée, tout ça. Donc, le but de Matheson, oui, mais les autres buts, je ne sais pas si...
Suzuki, 2 contre 1.
Ouais, c'est un beau tir.
Mais tu sais, quand on dit que la chance est de ton bord hier, quand même, tu sais, le hors-jeu qui aurait pu mener à 4-2, là, on parle.
Ça, je pense, a complètement chamboulé l'histoire de ce match-là.
Je pense que oui.
Sincèrement, je pense que c'était le point tournant. Je veux voir, Stéphane, toi, comment t'as analysé ce match-là?
Ben, écoute, c'était un match, c'est un match bizarre. Écoute, quand tu dis, t'as 17 lancés au filet dans tout le match, puis tu gagnes 5-1, 17 contre 37, c'est un match bizarre. Kayden a bien joué, je sais qu'on s'en vient sur son cas, mais c'est une victoire. C'est une victoire qui fait du bien, premièrement, peu importe la façon. Et puis, j'ai aimé un petit peu la réponse tout de Letoski quand il dit tout le monde aille, première victoire de la Ligue nationale, tout le monde le félicitait, tout le monde. Mais il dit c'est une victoire inconfortable dans le sens que c'est vrai comme coach, tu veux pas remporter ta première victoire à cause du malheur d'un autre. Mais c'était bizarre un petit peu. Tout ça fait que c'était bizarre. Mais j'ai écouté tout le match, j'ai toffé jusqu'à la fin.
Bravo.
Et puis, merci beaucoup. C'est une victoire que. Ça arrive des fois des matchs de même où le gardien de but, là, la rondelle le frappe pas. Tout ce qui arrive, là, ça passe dans le petit trou que tu peux avoir. Si je suis l'entraîneur des gardiens de but de Seattle, mon bon ami Steve Brière, un matin, avec Grubauer, là, je prends ce petit bout de vidéo-là qui n'a pas duré longtemps, puis je le mets aux poubelles parce que c'est le genre de match, ça arrive, ça. Et puis c'est comme... Tu veux pas t'attarder à ça avec un gardien de but. Tu dis, bon, ben, on pense au prochain match, puis that's it.
Mais Stéphane, je veux savoir, comment t'as trouvé ça qu'on enlève le gardien de but avec 2 minutes à faire en
première période? Ça, j'ai pas aimé ça. Ben, très bon point.
Attends, la période va finir.
Ben, pour plusieurs points, il restait 2 minutes exactement. Moi aussi, j'ai dit, c'est certain qu'il peut pas repartir la deuxième période avec Grubauer. Mais laisse-les là, j'ai pas aimé ça. Si j'aurais été l'entraîneur des gardiens de but, je leur aurais dit à mon coach en chef que je suis pas content. Je l'ai dit, ça aurait été clair. Parce qu'à 2 minutes, tu dis, bon, on va toffer la fin de la période. Et puis, ça évite, premièrement, entre guillemets, l'humiliation de se faire sortir devant tout le monde. Il n'y a pas un gardien de but qui aime ça. Et autre chose, c'est tu donnes la chance à Dakour, entre les deux périodes, de faire un bon étirement dans la chambre, puis de se préparer, embarquer dans le match au début de la deuxième. Donc, j'ai pas aimé le changement à ce niveau-là.
D'accord avec toi à 100%. Écoute, moi non plus, je comprends absolument rien là-dessus. Quand je vous parlais de l'histoire de ce match-là, en fait, c'est une mauvaise période, mauvaise première période pour le Kraken de Seattle, en fait, pour le gardien de but. Et début de deuxième, on commence la deuxième période, Eberle marque, pouf, OK? Ouais. Fait que là, c'est 4-1. Là, on sent un peu le Canadien sur les talons. Avantage numérique Kraken et Matthew Berner qui arrive et qui marque en avantage numérique. Là, on fait, mon Dieu, le vent est en train de tourner de bord. On dit, qu'est-ce qui se passe là? On joue un bon 20-30 secondes en territoire offensif, marque le but et par la suite, on appelle une reprise vidéo parce qu'il y avait hors-jeu sur la séquence. Sincèrement, là, je pense que l'étoile du match, autre qu'Eden Primo qu'on va parler, là, le go vidéo hier chez les Canadiens a fait une grosse job. C'est pas ça, là. Ça fait 4-2, ça peut faire 4-3, ça peut faire 4-4, ça peut revenir, ouais, ça, ce match-là.
Puis il fallait que cette recommandation-là du coach vidéo, fallait qu'elle soit quand même forte. Vous êtes là, derrière le banc, t'as Trevor Lutowski, premièrement, sont un gars de moins derrière le banc, donc c'est sûr que ça va un peu plus vite pour tout le monde. Lutowski qui est là, qui est quand même pas habitué, c'est pas lui qui demande les contestations en temps normal, tout ça. Il est lancé dans cette situation-là.
Si tu rates, là.
C'est ça, exactement.
Ben oui, avantage numérique.
C'est ça, là. C'est 4-2 et tu donnes un avantage numérique. Donc, c'est pour ça, ça prenait quand même beaucoup de courage aussi, mais c'est ça, ça prenait une recommandation, je pense, autoritaire de la part de.
Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de courage là-dedans. C'est oui ou c'est non. C'est black ou c'est noir ou c'est.
Oui, mais
tu sais,
les hors-jeux. Ben,
c'était serré quand même, Stéphane.
Les angles de caméra étaient pas évidents.
Tu l'as quand même. Tu l'as quand même très, très clairement. C'est un hors-jeu. Et puis même si c'est serré, quand tu dis on y va, c'est parce que t'es certain. Écoute. Donc, c'est comme. Tu sais, des fois, ça me ferait. Il y a eu beaucoup de courage en faisant ce call-là. Non, il savait. Il savait qu'il gagnait. Et puis sinon, si t'es pas sûr, tu y vas pas. Donc, tu sais, puis les entraîneurs vidéo, oui, font une bonne job, mais c'est leur job. Ils sont deux pour faire ça, pour vérifier toutes les entrées de zone. Toutes. Quand ils disent, ils ont découvert quelque chose. Ah non, ils n'ont rien découvert. Ils regardent tout.
Fait que tu disais que t'as écouté le match jusqu'au bout, t'as manqué de sommeil, Stéphane, t'es mal commode ce matin, là. Hey, on voulait donner une étoile du match, nous autres, au gars du vidéo, tu veux pas y donner.
C'est sa job, ah. Tu donnes une étoile pour faire sa job. Ben non, c'est sa job.
Ben Stéphane, t'es bien parti, on va rester, puis on va continuer avec toi. Je veux qu'on se parle ensemble de Caden Primo. Primo, on le disait, bloqué 36 des 37 lancés. Plusieurs arrêts spectaculaires, une jambière sortie à gauche. Ouais. Et qui était solide dans le match hier.
Surtout en première, hein?
Oui.
Surtout en première, des belles arrêts, des jambières, comme tu dis, JR, des jambières très rapides. Non, je l'ai trouvé solide. Puis ça, c'est encore une fois, il y a eu un match moyen, comme toute l'équipe à Calgary. Un match où je pense que l'équipe t'a secoué plus que d'autres choses avec ce qui est arrivé le matin même avec le départ de Martin Saint-Louis temporairement. Et puis, Mais Caden est revenu très fort. Des très bonnes jambes. Mais qu'est-ce qui aide dessous aussi, c'est tu prends une avance là, de 4 à 1. Là. Ça, là, pour un gardien de but, là, c'est, ça n'a pas de prix. 4-0 même. Et puis, ça, pour un gardien de but, mais c'est comme, OK, alors j'ai plus la pression. Là, je suis pas mal plus lousse, mais ça n'enlève rien à sa partie. 37 lancés. Il a été solide. Et puis, écoute, mine de rien, Caden Primo a remporté deux des trois dernières victoires du Canadien. L'autre, c'est Jake Allen.
Oh.
Et puis, dans les 10 dernières. Est très bon. Des très bons chiffres. À 910 de moyenne d'efficacité. C'est le meilleur gardien de but du Canadien.
Controverse.
J'ai pas dit ça encore. Puis là, encore un matin, quelqu'un me parlait. Est-ce qu'on peut avoir une controverse de numéro 1? Non. Et l'année prochaine, pas au début de la saison. Mais on sait jamais, avec le Caden Primo continue à se développer, on ne sait jamais. Mais au début de saison, l'année prochaine, il n'y a pas de controverse là. Sam Montembeau a mérité le droit de prouver qu'il peut être un numéro 1. Ça, il l'a mérité.
OK.
Caden a encore du chemin à faire.
OK, Guillaume.
Ben, moi, justement, à ce sujet-là, le bémol que j'aimerais apporter, c'est les dernières victoires de Primo. C'était donc Seattle hier, avant ça Columbus, avant ça Anaheim, et avant ça, le match juste avant Noël, Chicago. On s'entend que c'est quatre des pires équipes de la Ligue nationale. Donc, tu sais.
Habituellement, le Canadien joue pas bien contre les mauvais
clubs. Oui, non, tout à fait. Mais ça reste que, tu sais, c'est pas des grosses machines offensives. Et c'est correct comme ça. Je veux dire, Caden Primo, c'est sa première saison à temps plein dans la Ligue nationale. C'est correct aussi de pas le brûler continuellement contre des gros adversaires, tu sais. Mais, donc, c'est juste le petit bémol quand même. C'est n'oublions pas.
Oui. Et la dernière victoire de Sam Montembeau, c'est contre l'Arizona.
Ouais.
Le 27 février.
Ouais.
Un mois.
Ouais, c'est de l'argument, ça. Wow! Ça sent la controverse. Allez, juste avoir une chose, Alexandre, je vais avoir ton point de vue là-dessus. Honnêtement, après la performance de Primo contre Calgary, je dois avouer, j'ai eu quand même un petit point d'interrogation. J'ai dit, un coup que là, tout ça est stabilisé, est-ce que ça va se mettre à dégringoler? Et je sais pas, est-ce que tu avais un point d'interrogation toi aussi? Parce que sincèrement, il était scellé dans le match. J'ai fait, OK, je pense que je m'inquiète pour rien.
Ben, en fait, dégringoler, tu parles pour le club ou pour lui?
Pour lui.
Ben, il va quand même très bien depuis deux mois. Là. Il y a quelque chose comme 92,5% de pourcentage d'arrêt depuis deux mois. Donc, c'était sa mauvaise partie dans les deux derniers mois. Puis je pense qu'il y avait des circonstances, notamment le fait que Saint-Louis soit pas là. T'sais, je pense que les émotions étaient quand même là dans cette partie-là. Puis ça a peut-être été plus difficile à gérer pour une équipe plus jeune comme le Canadien. Non, pas nécessairement.
OK, donc je suis seul à avoir j'avais un petit point d'interrogation.
Non, mais je veux dire, l'équipe au complet n'avait pas très bien joué cette journée.
Stéphane, toi, tu n'avais pas de point d'interrogation?
Non, pas tout.
OK,
pas
tout. Parfait.
Il va y avoir des mauvais matchs toute la fin de la saison. Et parlant de fin de saison avec les gardiens de but, il nous reste 12 matchs.
Ouais,
j'aurais pas de problème, encore une fois, à dire, bon, mais Caden, jouant à peu près à la moitié, j'aimerais ça qu'il soit au moins proche de la moitié. C'est pas pour créer une controverse de numéro 1, c'est pour donner du millage. C'est la seule raison de donner du millage. Il y a seulement 16 départs cette saison.
Cas,
donc, donnez du millage.
D'ici la fin de l'année, en tout cas, il va y avoir un calendrier très difficile. Peu importe, mettez ça comme vous le voulez. Là, le Canadien a le calendrier le plus tough probablement de toute la Ligue.
Hey, sincèrement, si ce club-là est à 2-4 points de se qualifier pour une place en série, tu regardes le calendrier puis tu te frappes la tête d'un mur. T'affrontes Toronto, t'affrontes les Rangers de New York, t'affrontes Colorado. Sincèrement, c'est un calendrier qui est très chargé. Ouais. Avec ce voyage de 5 matchs sur la route, 12 jours de temps quand le club est éliminé, c'est pas les meilleures circonstances.
C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle dans le sens que c'est bon de jouer contre des meilleures équipes. C'est une équipe qui est jeune, donc tu vois c'est quoi jouer contre des bonnes équipes. Puis l'autre chose, c'est que je pense que ça maintient la concentration ou l'intérêt des joueurs de dire hey, si bon, ce soir, si on se présente pas, on va en manger une.
Okay.
Puis on a passé 2 ans, on en parle. Si on jouerait contre des Chicago, des San Jose, mais peut-être qu'il y aurait des matchs où que la concentration sera plus ou moins là.
Guillaume?
Non, je le dis, ce qui est intéressant dans ces adversaires-là, justement, puis pour revenir à ce que Stéphane disait sur son désir que Primo joue beaucoup, à la fin, là, t'as Philadelphie, Islanders, Détroit, c'est toutes des équipes qui sont en ce moment dans l'espèce de lutte pour une place en série. Ça se peut que ces matchs-là soient des matchs qui, pour l'autre équipe, soient des matchs vraiment... là, exactement, des matchs quasiment sans lendemain. Alors, si Primo est capable d'avoir une coupe d'expérience dans ces matchs-là, ben, tu sais, je pense que ça peut quand même être bénéfique parce que c'est des matchs qui, forcément, même s'il n'y a pas enjeu pour le Canadien. Quand l'équipe de l'autre côté se bat pour sa survie, je pense que c'est le genre de moment dont, ça peut être une bonne expérience d'apprentissage pour une jeune équipe comme ça de élever le niveau de compétition là, pis,
en tout cas pour les fans, au moins ça va être le fun le dernier mois, parce que si tu compares maintenant le Canadien avec les Sharks, en tout cas j'ai fait le calcul la semaine dernière, il leur restait 13 parties contre des clubs qui étaient déjà largués.
Le Canadien, il en restait trois,
puis il vient d'en faire deux. Il vient de faire le Kraken puis les Flames. Il en reste un d'ici la fin de l'année contre un club qui est largué. Fait au moins, on risque d'avoir des matchs dans lesquels il y a un niveau de compétition.
OK, là, on arrive. Il reste combien de matchs, j'avais dit?
12.
Parfait. Il reste 12 matchs. Évidemment, on n'est pas dans le bilan de fin de saison, mais je veux profiter de la présence d'Alexandre Pratt pour taper dans le dos ou nous taper sur la tête, OK? Parce que je dis nous, parce que moi et toi, Alexandre, nous avons classé Alex Newhook comme étant la déception potentielle de cette saison, OK? Ouais. Il en a mis deux dedans, 11-12. Au poste de joueur de centre, il est à 57% d'efficacité présentement. C'était le meilleur chez les Canadiens. Est-ce que tu gardes Newhook comme ta déception de l'année ou tu fais comme moi puis tu n'en parles plus jamais de ta vie?
Non, mais attends, je pense... OK, je veux dire, je pense que les attentes étaient démesurées en début d'année. On s'attendait à ce qu'il soit aussi productif que Kirby Dux. Ça ne sera pas arrivé et ça n'arrivera pas, OK? Donc, dans ce sens-là, je pense que... je pense que c'est un choix qui se défendait à l'époque. Mais je veux dire, si tu regardes ça aujourd'hui... Comment tu peux ne pas prendre genre Josh Anderson, je veux dire, ou tu sais, un joueur comme ça, ou Jake Allen, ou nommons-les, mais il y a des pires joueurs que Newhook dans le club. Mais maintenant, tu sais, ce que je me pose comme question avec Newhook, c'est qu'il peut être très bon sur des séquences très courtes. T'sais, des fois, ça arrive le début en un match, puis là, il va très bien.
Mais pas tant pour la production, mais pour sa capacité de jouer au centre, quand même, aussi, m'impressionne. Il casse bien mise en jeu.
Moi, ce que je me demande, c'est quoi son poste avec le Canadien sur le moyen terme? Tu sais, mettons, le voyons, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, il est où dans l'alignement? J'ai de la misère à concevoir. T'sais, je pense que la grande énigme de tout ça, c'est la grande inconnue, c'est Kirby Dock. On ne sait pas dans quel état il va revenir, puis s'il revient, est-ce qu'ils vont le mettre au centre ou pas? Mais tu sais, sinon, j'ai l'impression que peut-être qu'ils vont être tentés d'aller chercher un autre joueur de centre. Mais tu sais, je vois pas Newhook à long terme au centre. Puis là, je pense qu'il est un petit peu là par défaut. Moi, je le trouve meilleur à l'aile que je le trouve au centre. Puis là, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu un bon match hier. Il s'améliore au cercle des mises en jeu. Mais un centre, c'est pas juste quelqu'un qui prend une mise en jeu pour moi. Tu sais, c'est un joueur qui est très complet. Puis je ne sais pas si son poste... En fait, je pense pas que son poste, c'est deuxième centre sur le long terme. Guillaume. Je pense qu'il y a plus d'avenir à l'aile.
OK, Guillaume.
Ben, je suis assez d'accord avec Alex, ou sinon il devient ton troisième centre de luxe. Mais tu sais, je pense que dans un monde idéal, le Canadien irait chercher un centre et là, t'as Newhook comme option à l'aile et comme option au centre si t'as une blessure. Tu sais. Je dois avouer qu'il est meilleur, par contre, je le trouve quand même meilleur au centre depuis son retour au jeu que ce qu'il avait montré en début de saison. Là, il est quand même à 8 points dans ses 12 derniers matchs. L'amélioration au cercle des mises au jeu, ça me montre quand même, par contre, un joueur qui a identifié une faiblesse, qui a travaillé dessus et qui y est parvenu. Là, vraiment, ça va vraiment bien là-dessus aussi depuis son retour au jeu. Donc, tu sais, je déteste pas, mais effectivement, c'est vrai que c'est dur de voir où il va y avoir sa place. Mais il va avoir une place. Je veux dire, le Canadien, on le sait, là, il n'y a pas énormément de relève qui s'en vient à l'attaque, qui est prête à être là. On a vu Joshua Roy, là, qui allait bien avant sa blessure, mais tu sais, du reste, c'est pas, tu sais, on le sait en ce moment, c'est vraiment en défense, les gros espoirs. Alors, il y a certainement de la place pour Alex Newhook, quelque part dans ce top 9-là. Je pense que c'est top 6. Je pense qu'à l'aile, c'est un top 6, étant donné que c'est sûr que là, il n'y a pas une grande relève. Mais sinon, au centre, c'est
top 6. Ça, c'est par défaut, c'est ça?
Je pense que oui. Oui, mais tu sais, il faudrait voir quand même. Ça reste qu'il est encore jeune. Ça reste que, tu sais, si on revient à la comparaison avec Kirby Dock, Kirby Dock, à la fin de sa première année à Montréal, il avait pris, tu sais, il commençait à montrer un peu plus les limites de son potentiel. C'est peut-être ce qu'on est en train de voir avec Newhook, c'est-à-dire que, bon, il en montre un peu plus. Depuis son retour au jeu qu'en début de saison, une fois qu'il a fait l'adaptation, tout ça. Donc, tu sais, deuxième top 6 par défaut, je sais pas. C'est sûr que, non, dans un bon club, j'imagine que...
En tout cas, chez le Canadien, top 6.
Ben, chez le Canadien, top 6, exactement.
On se trompe pas. Stéphane, toi, ta lecture de Newhook, moi, j'avais dit en début, je le répète, je suis vraiment niaiseux de faire ça, mais en début de balado, j'avais dit, ça se peut que ça va... Je pense que ça va être ma déception cette année. Je suis dans le champ gauche, encore une fois. Qu'est-ce que je te dis, Stéphane?
Moi, très honnêtement, c'est pas ma déception, puis c'est pas ma surprise. C'est exactement ce que je m'attendais de lui. C'est un gars qui peut dépanner sur un top 6, mais que dans une bonne équipe, va être sur un troisième trio. à l'aile ou au centre. Et puis, dans ce rôle-là, j'ai pas de trouble avec un genre de Alex Newhook. Et puis, je pense que ce que je viens de dire, c'est un gars qui peut dépanner autant à l'aile ou au centre. Donc, c'est une bonne acquisition, mais dans une bonne équipe, ce gars-là doit être dans un troisième trio.
D'accord avec toi, ouais, à 100%. Et tantôt, Alexandre t'a parlé de déception. T'as dit, tu sais, la déception, ça serait maintenant Josh Anderson. Attendez, j'en ai une torieuse pour vous autres. Si les Flyers de Philadelphie ont pris leur capitaine, et je dis les Flyers, je dis pas juste Tortorella, parce qu'il a dû en discuter avec son DG, avec Daniel Brière. Si les Flyers prennent la décision de prendre Sean Couturier puis de le mettre dans les estrades, le capitaine de l'équipe, le monsieur Flyers de Philadelphie depuis tellement d'années, de le mettre dans les estrades pour deux matchs, est-ce que le Canadien pourrait faire ça avec Josh Anderson, Guillaume?
Ben moi, j'exclus pas que ça pourrait arriver parce que son temps de jeu a quand même diminué significativement dans les dernières semaines. Avant sa blessure qu'il avait subie, avant la pause du match des Étoiles, il était à 16 minutes et demie. Sa blessure est survenue quelques semaines avant le match des Étoiles. Il était à 16 minutes et demie par match. Depuis, il est à 13,53. Il est en bas de 14 minutes. T'sais, 2 minutes et demie par match là, pour un joueur comme ça, c'est quand même significatif. Là, en ce moment, je pense qu'il est en avantage numérique par défaut. Là, on revient à notre expression par défaut. Je pense que dans son cas, la deuxième vague d'avantage numérique, c'est vraiment par défaut. Je comprends qu'on veuille le ménager, tout ça, mais je veux dire, il y a des signes qui pointent vers ça. Moi, je ne serais pas surpris quelque part d'ici la fin de la saison, ça arrive et qu'il en vienne à sauter un tour parce que je vois mal comment il aide le Canadien en ce moment. Je veux dire, il y a peut-être que, je ne sais pas s'il y a un bobo, je ne sais pas s'il y a quelque chose de psychologique aussi, mais il n'aide pas cette équipe-là en ce moment dans sa façon de jouer. Là. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand tu laisses de côté un joueur, il faut que tu demandes aussi comment ça va être reçu dans le vestiaire, comment les autres joueurs vont le percevoir.
Écoute, dans le match d'hier, c'est 2 minutes de pénalité, un lance au but, aucune mise en échec.
Ben, c'est ça.
Il faut que tu fasses quelque chose. Ouais,
les joueurs ils le voient aller aussi. Je pense que les joueurs vont comprendre si on en arrive là, puis je pense pas que ça va créer une mutinerie dans le vestiaire.
Vas-y, Stéphane.
Ouais, premièrement, on n'a pas beaucoup de, pratiquement plus de profondeur à l'attaque. Là. On montre pas de joueur et puis de Laval. Donc, il va jouer, ça c'est certain. Autre chose, c'est que c'est une situation différente. À Philadelphie, on lutte pour faire des séries. Donc, à un moment donné, Tortorella, il a vu une petite baisse. C'est comme il a voulu créer un électrochoc dans l'équipe. Puis, s'il y en a un qui est bon là-dedans, c'est bien Tortorella en sortant des noms que tout le monde, ça va shaker tout le monde un peu. Il l'a fait avec Couturier, avec Atkinson, avec Mark Stahl. Il l'a fait au début de la saison, même avec Joe Farabee qui, après 3 minutes de jeu, il l'a laissé sur le banc pendant les 57 dernières minutes. Mais il n'y a pas beaucoup de coachs qui a le pouvoir de faire ça. Lui, il s'en fout. Il va le faire et puis il va vivre avec. Et puis, c'est une question différente. Mais pour venir à Anderson, oui, il mériterait de sauter son tour, mais je pense que la situation du Canadien fait que, écoute, on va finir la raison, on ne maganera pas trop, pas plus qu'il l'est là, parce qu'il l'est magané au niveau de la confiance, il est très magané. Et puis là, je le regarde jouer depuis 2 semaines, là. Pauvre gars, là, il a l'air du joueur que si bol, ça peut qu'il finisse ta saison, là.
Exact.
Il a l'air de ça.
Il n'est pas capable de. Écoute, il a de la difficulté à recevoir une passe, de contrôler une rondelle. Il a de la difficulté à faire une passe. Il est partout et nulle part en même temps. Puis il ne fait pas de mise en échec. Écoute, c'est une situation qui est problématique.
Il a l'air d'un joueur qui a tout hâte que sa saison-là soit finie.
Oui, définitivement. Alexandre, tu veux ajouter quelque chose?
C'est dur. En fait, c'est parce que si tu le sors de l'alignement, il faut qu'il en tire une leçon. Ce n'est pas un jeune, c'est pas Ullonen que tu sors de l'alignement puis qui, si ça ne dérange rien finalement. Là. T'sais, il va falloir qu'il en tire une leçon. Puis là, qu'est-ce que tu demandes à Josh Anderson de faire de plus? T'sais, tu lui demandes d'être plus impliqué, mais est-ce qu'il est à son maximum présentement de ce qu'il est capable déjà de donner en fin de saison? T'sais, tu lui demandes-tu d'être plus opportuniste, de marquer plus? Dans les 2 dernières années, en tout cas l'année dernière, c'était encore plus marqué, mais c'est un des joueurs qui avait le plus faible taux de conversion des buts anticipés. C'est-à-dire, il aurait dû en marquer, je ne sais pas, mettons 25, puis il en a marqué 21 ou 20, je ne me rappelle pas des chiffres exacts, mais il était dans les pires différentiels de la Ligue là-dessus. Donc, c'est un gars qui manque de chance.
Il ne marquera pas plus.
Si tu manques de chance à un moment donné et que tu mets dans les estrades, cet aspect-là ne changera pas. Fait que tu ne peux pas le punir parce qu'il manque des chances. tu peux le punir pour d'autres raisons, mais pas parce qu'il manque des gens.
OK. Ouais. Moi, mon point, c'était plutôt par la présence d'esprit. Si tu demandes à l'ensemble de ton club d'être présent parce que tu affrontes de grosses formations, tu sais, lui, c'est le premier. Tu sais, sois là, sois sharp mentalement. Parce que si t'es pas sharp, tu seras pas de la formation. Ça m'amène, écoute, un sujet avant qu'on fasse une courte pause, puis je le prends avec des pincettes. Tu sais, là, je parlais de Josh Anderson, puis je vois mal Trevor Letoski prendre Josh Anderson puis le mettre dans les estrades. Martin Saint-Louis n'est pas là. Et on n'a toujours aucune mise à jour du Canadien. Fait que je prends ça avec des pincettes. Juste savoir, les gars, votre point de vue là-dessus. Est-ce que le Canadien aurait dû faire une petite mise à jour? Dire, on lui a parlé, possiblement, va revenir telle date ou quoi? Tu sais, il y a rien. Rien. Non, et là, le festival, la spéculation est parti, là.
Ouais. Mais je pense que le Canadien, est à l'aise avec ça au sens où, tu sais, c'est une situation qui touche Martin Saint-Louis comme père de famille et non pas l'entraîneur. Donc, tu sais, à partir de ce moment-là, l'équipe a décidé que c'était une affaire privée, une affaire familiale et personnelle. Alors, ça va rester comme ça. Et de toute façon, peu importe, comme tu dis, le festival de la spéculation, de la rumeur, ben, au bout de tout ça, la réputation de Martin Saint-Louis n'est pas touchée en ce moment. De toute façon, on n'est pas comme dans les histoires. T'sais, rappelez-vous, Carey Price, quand toutes les histoires pas possibles circulaient à son sujet, on n'est pas là de toute façon avec Martin Saint-Louis. Donc, c'est pour ça que je pense qu'en ce sens-là, le Canadien va juste laisser les choses aller et espérer que la vie privée de Saint-Louis soit respectée. Alors, on en est là. Puis, côté hockey, ben, à chaque fois qu'on pose la question, que ce soit le Tasky ou aux joueurs, précise tout le temps, ben, plus le Tasky, mais précise qu'il est en contact quand même quotidien avec Saint-Louis. Je pense que c'est une façon de dire aussi que s'il devait en venir à prendre une décision osée sur sa formation, ben, on en comprend que c'est fait avec l'assentiment de Martin Saint-Louis et non pas, Martin est parti, on va en profiter pour mettre la formation à l'envers. Puis, donc, tu sais, ça là-dessus, ça me semble quand même clair qu'il y a une ligne de communication qui reste, puis je crois pas que le Tasky justement prendrait une telle décision si c'était pas disons à l'unanimité au sein du personnel incluant Martin Saint-Louis.
OK, Alexandre.
Mais étant donné que tu sais c'est pas quelque chose qui touche en premier lieu Martin Saint-Louis, c'est quelque chose qui touche quelqu'un de son entourage en premier lieu. Tu sais, si t'es le Canadien comme gestionnaire, comme boss là, de Martin Saint-Louis, ce que tu veux c'est de mettre Saint-Louis dans le meilleur état possible. Puis je pense que dans une circonstance comme celle-là, on devine qu'il doit vivre des choses très difficiles à la maison. Tu sais, je pense qu'il faut que tu enlèves de la pression. Je pense honnêtement pas qu'en dévoilant la nature
mais pas
du
tant
problème...
Ça. Pas tant ça. Mais tu sais, d'avoir une mise à jour en quelque part, ça fait quand même quatre matchs qu'il n'est pas là. Ouais, il a quitté rapidement avant un match.
Ouais, mais s'il n'est pas prêt à le faire, si c'est une situation qui est très privée, qui concerne par exemple un de ses enfants, parce que ça serait ça... Là. Et puis qu'il n'est pas à l'aise de le dire tout de suite, je peux comprendre. Puis je pense aussi, honnêtement, que la très, très large majorité des fans comprennent la situation.
Définitivement.
Puis est-ce que le Canadien pourrait le faire? Tu sais, la réponse, c'est oui. Le Canadien pourrait dire des choses. Mais je dis, si Saint-Louis n'est pas rendu là dans le processus, si la famille de Martin Saint-Louis n'est pas rendue là, si la personne concernée n'est pas rendue là, je peux tout à fait comprendre aussi qu'il y a du vide présentement. Puis oui, la nature horreur du vide, puis... On entend des rumeurs, mais tu sais, les gens qui lancent des rumeurs vraiment imbéciles à la fin, là. Je veux dire, quand la vérité va peut-être un jour sortir, ça se peut qu'elle sorte un jour puis qu'on va voir qu'ils auront été dans le champ, mais c'est eux qui auront l'air tatane.
OK, Stéphane, toi là-dessus?
Ben, moi tout, je sens pas le problème, le besoin du Canadien de faire une mise à jour. Je pense qu'il n'y a pas personne qui. J'entends pas beaucoup de monde, en tout cas, de mon côté, qui en demande une, qui ont le sentiment de vouloir savoir quelque chose. Donc, j'aime la manière que ça se passe. J'aime la manière que les médias, j'aime la manière que les fans respectent tout ça depuis plus d'une semaine. Et puis, j'ai pas de trouble avec ça. De l'autre côté de la médaille, pour ce qui est de Trevor Letoski, c'est difficile quand t'es pas l'entraîneur-chef de prendre des décisions majeures, même si tu parles à Martin tous les jours. C'est quand même pas évident comme adjoint de dire, regarde, moi, là, je vais brasser, là, lui, là, je vais le shaker, c'est assez, là. C'est pas sa job et puis c'est difficile pour lui de faire des grosses décisions comme ça.
OK, ben voyons la suite des choses. Ce qui tombe bien, c'est ce voyage de 12 jours sur la route. Fait que tout ça est arrivé un peu en même temps. Je sais pas, au retour de l'équipe, si on aura peut-être une mise à jour ou un retour peut-être de Martin Saint-Louis, mais clairement cette séquence-là donne du temps de qualité peut-être à Martin Saint-Louis et toute sa famille. On va s'arrêter quelques instants pour retour. On va parler du gros, très très gros chantier qui s'en vient pour le Canadien. Pour le dernier match cette séquence de 5 sur la route, l'Avalanche du Colorado avec un gars qui est en feu par les temps qui courent, un gars qui s'appelle Jonathan Drouin. Oui, il est en feu. On est de retour au balado sortie de zone saison 5, épisode 48 avec Alexandre Pratt, Guillaume Lefrançois et Stéphane White. Les gars, dernier match sur la route pour le Canadien, ça sera face à l'Avalanche Colorado. Séquence 9 victoires de suite, mine de rien, ça va bien. Tiré d'arrière 4-0 contre les Penguins de Pittsburgh. Marque 5 fois sans réplique pour gagner en prolongation 5-4. Jonathan Drouin là-dedans, écoutez bien, 2 buts, 1 passe. Lui qui est maintenant rendu à 14 buts. 32 passes, 46 points, est à 6 points de sa meilleure saison en carrière, c'est-à-dire 53 à Montréal et à Tampa Bay. C'est la renaissance de Drouin, puis ça va être tout un défi. Je commence avec toi, Guillaume. Comment t'expliques ça que Drouin, que ça marche demain?
Ben, clairement, je pense que, bon, évidemment, mentalement, il est probablement dans de meilleures dispositions. Mais plus concrètement et plus physiquement, moi, ce qui me réjouit pour lui, c'est de voir, c'est les 14 buts. Parce que, rappelez-vous, là, Montréal, tu sais, il en parlait souvent, là, depuis ses problèmes au poignet, c'était difficile. Il disait, là, tu sais, qu'il en ressentait les conséquences, tout ça. Et cette année, il est à 13,6% de taux de conversion sur ses tirs. C'est la première fois qu'il y a le 10% qui est au-dessus de 10% depuis sa blessure, justement. Le 10%, ben, c'est un peu l'espèce de barre psychologique, là. Tu sais, c'est l'équivalent quand on parle de 900 pour les gardiens, ben, ça veut dire que pour les tireurs, c'est 10%. Alors, de le voir à 13,6%, ça, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour lui, pour sa carrière à moyen terme, parce que c'est sûr qu'un joueur de hockey, t'as besoin de mains et de poignets qui fonctionnent comme il faut. Alors, tu sais, je pense que ce bout-là est intéressant. Puis, ben, ça lui permet de marquer des buts, comme on l'a vu hier, son but en prolongation, en débordant Chris Letang, c'était quand même c'était vraiment toute une pièce de jeu.
Alexandre?
Mais on dirait que finalement, oui, je suis d'accord, je pense que le principal point, c'est mental. Il n'y a pas le même type de pression au Colorado qu'il y a ici. T'sais, ici, on l'attendait probablement comme le meilleur marqueur du club à toutes les saisons, à part Suzuki, alors qu'au Colorado, c'est pas le cas. L'autre chose, on dirait qu'il... Comment je dirais ça? On dirait qu'il passe finalement par-dessus sa blessure au poignet. Moi, je suis convaincu que les léthargies qu'il y a eu à Montréal, où, tu sais, des fois, là, on trouvait qu'il manquait d'implication, mais je pense que tout ça est lié à sa blessure au poignet. Tu sais, il avait peur, je pense, franchement, de se reblesser. Là, c'est quand même une blessure qui était majeure. Je suis pas sûr que les gens comprennent que, genre, les poignets, pour quelqu'un qui en met dedans, c'est comme un outil de travail assez important. Tu sais, c'est comme un goaler qui est blessé à la jambe, mettons. Là, tu sais. Et hier, par exemple, de le voir aller au filet pour marquer le but gagnant, c'est pas quelque chose qu'il faisait si souvent que ça à Montréal. Il restait beaucoup en périphérie à Montréal. Tu sais, on l'a toujours dit, ses meilleurs moments à Montréal, en fait, c'est quand il passait. C'est quand il était comme sur le bord de la bande en avantage numérique, passeur extraordinaire. Mais on le voyait pas si souvent que ça aller vers le filet. Fait que là, j'ai l'impression qu'il passe par-dessus ça. Mais écoutez, il est rendu à 5 parties de 2 points ou plus dans le dernier mois. Hey, c'est quand même du niveau élite ici. Puis c'est sûr qu'il est super bien alimenté là, quand tu joues avec Makar puis McDavid puis t'sais, Rantanen, puis McKinnon, Rantanen, des joueurs comme ça, n'oublions pas une chose, c'est aussi un excellent passeur. Il alimente lui aussi très bien ces joueurs-là. Donc, je trouve qu'il y a une belle complétude. T'sais, soyons francs, il n'y a pas de joueurs de ce calibre-là non plus avec qui jouer à Montréal. Puis à Montréal, on l'a barouetté aussi. Puis il y a une partie du blâme qui lui revient à lui dans tout ça, mais il y a aussi une partie du blâme qui revient à la composition de l'équipe. Souvenez-vous, là, l'année de la pandémie où carrément, il n'y avait plus personne dans l'équipe. Là. Il jouait tout le temps sa première ligne. Mais avec des joueurs, à part Suzuki, il n'y a pas beaucoup de joueurs avec qui la chimie pouvait nécessairement pogner. Il y a eu des bons moments avec Josh Anderson, c'est quand même tout.
Oh, il y en avait Jordan Will, tout, là, écoute. Là.
C'est ça.
Wow!
Hey, je serais curieux. Mais écoute.
Oh, t'as pas si faible que ça. Hey,
attends, ça, c'est le fun.
Attends. Vas-y, la carte de bingo.
Moi, Jordan Will. Moi, j'aime mieux Jordan Will que la majorité des gens, puis je pense qu'il sera encore dans la ligne de centre. Okay. Puis même que je pense que chez le Canadien présentement, il serait probablement dans le top.
OK, mais ben attends, je veux savoir, Stéphane, quand t'étais là, Jordan Will, est-ce qu'il était là?
Oh oui, j'étais là.
OK, fait que toi, t'étais avec Claude Julien. Est-ce que vous entendiez toutes les critiques qu'on faisait quand on voyait Jordan Will sur l'avantage numérique?
Ben oui, c'est incroyable. Mais un petit peu pour faire. Ouais, parce que là, c'est un petit à côté qu'on fait.
Ah, il parle de si pire que ça, Jordan Will.
Non, mais c'est rien contre Jordan Will, même parce qu'on n'avait pas d'autres à mettre là. Ouais. C'était ça le problème.
Mais il avait été bon à son arrivée à Montréal.
Oh, il avait été bon. Il reste que c'est un joueur de profondeur, puis c'est un joueur de 3-4e ligne.
Pourquoi Claude Julien le mettait tout le temps sur l'avantage numérique?
Ben, c'est pas peut-être juste Claude. Il y avait Kirk tout, là, Kirk Muller qui l'aimait aussi. Non, c'est un gars qui faisait tout simplement ce qu'on lui demandait. C'est ça, les coachs aiment ça.
Quatrième marqueur dans KHL cette année.
Claude, il l'aimait. Ben, moi, je l'ai retrouvé aux Jeux Olympiques. À Pékin, où il était dans l'équipe nationale avec Claude. Puis Claude, c'était réciproque. Là, les deux, je pense, appréciaient beaucoup. Là.
Bon, mais moi, je pense que Claude, c'est son parrain. Je sais pas.
En tout cas, moi, je l'aimais, Jordan Will.
OK, Joe Drouin. Oui. Joe Drouin, deux petits mots. Joe Drouin, mais écoute, non. Joe, je pense que les gars avaient tout dit. C'est premièrement, il est en santé. Ce qui n'a pas été depuis longtemps à Montréal. Il a quand même quoi? Il est rendu à 68 matchs de jouer. Et Joe, surtout, je pense qu'à Montréal, il avait tout le temps peur. Il avait peur de failer,
d'échouer.
D'échouer, exactement. Il avait peur d'échouer. Et il ne jouait pas avec la confiance de réussir. Il jouait avec la peur d'échouer. Et puis, j'ai tout le temps dit, moi, dans les dernières années, que la plus belle chose qui pourrait pas arriver à Joe, c'est d'aller en quelque part d'autre, de sortir de Montréal. Et puis, c'est exactement ce qui fait ça. Puis en plus, il a la chance de jouer avec une équipe, comme vous l'avez dit, les gars, qui a du talent. Donc, il est plus le spot, under the spot, il est plus sous la lumière. C'est le gars, là, comme un petit peu, là, Phil Kessel, là, quand il jouait à Pittsburgh. Phil Kessel, à Toronto, toute la pression que t'as sur lui, mais il s'en va à Pittsburgh, mais là, t'as les Malkins, t'as les Crosby devant lui. Phil Kessel devient un second violon, ce qui est avec Joe. On a vraiment mis en doute que le fait qu'il y avait les qualités d'un top 6, le talent d'un top 6, tout un passeur, et maintenant, il marque des buts parce qu'il va plus à l'intérieur des cercles de mise du point de mise au jeu. Et puis avant, nous, avec les Canadiens, ils reprochaient tout le temps dès qu'à l'extérieur. Ça, je pense que c'est un manque de confiance, c'est un manque. Donc, je suis content pour Joe. Et puis, il forme un bon trio. Alors, en ce moment, depuis quelque temps, il joue avec Lekkonen, Middlestat, puis Joe. Et puis, c'est un bon deuxième trio au Colorado, mais il n'y a plus la pression d'être le go-to guy. Comme qu'il l'a tout le temps senti à Montréal.
Après le match entre Colorado et les Pingouins, Nathan MacKinnon est en entrevue, puis il dit, j'ai parlé à Jonathan Drouin cet été, puis je lui ai dit, garde, oui, tu vas avoir moins d'argent, mais viens avec nous autres. T'sais, viens avec nous autres, viens essayer ça. J'ai l'impression aussi que tu te sens désiré, tu te sens dans un club, c'est un bon club, tu seras pas la rockstar du club. Écoute, les éléments sont là. Puis
le contrat aussi, là, il n'y a pas l'impression de jouer avec le gars, l'attaquant le mieux payé du club. Ouais. Il a été un bout de temps là, chez le Canadien. Là, il gagne quasiment le salaire minimum. Là. Les attentes sont super faibles envers lui au début de la saison. Au final, c'est le meilleur contrat de la Ligue nationale de toute l'année. T'sais. Fait que ça compte aussi. Là.
Ah, clairement, moins de pression pour lui. Je veux savoir, puis je vais commencer avec Stéphane. Guillaume, après, je veux t'entendre. Ok. Je vais commencer avec Stéphane. Washington, qui est en position d'être en série de fin de saison. Ovechkin a marqué son 26e but. Dans cette victoire de 3-0, en fait, contre les Jets de Winnipeg, on a marqué deux là-dedans. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui est arrivé avec les Capitals de Washington pour être un club qui s'en allait puis qui voyait Ovechkin péricliter puis à devenir un club compétitif qui sont en position pour faire des séries de fin de saison?
C'est assez incroyable. Premièrement, pour ce qui est d'Ovechkin, c'est tout de suite après le match suivant du match des Étoiles. Il a marqué puis ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là.
Contre le Canadien, justement.
Exactement, c'est vrai. Et puis, oui, il avait joué un très bon match. Mais Ovechkin, tout le monde était d'accord pour dire qu'avant le match des Étoiles, il avait ses chances de marquer tout le temps, mais il rentrait pas. Et puis, à un moment donné, à un moment donné, c'est certain que ça va arriver, tu vas marquer des buts. Le gars, tout le temps, marqué des buts. Mais il avait ses chances avant. Mais c'était quand même incroyable dans ses 5 derniers matchs, 8 buts, 38 ans, le gars. Il reste encore 2 ans à son contrat. Donc, seulement 46 buts de Wayne Gretzky, c'est pas un grand score. Il va peut-être y en manquer Après la saison, il va peut-être avoir besoin seulement de 40 buts en deux ans, là, donc 20 buts par année.
Ça se fait, ça, c'est quelque chose qui se fait.
Si, s'il n'est pas blessé, là, je pense que ce record-là, là, il va être battu. Mais Washington, écoute, c'est un club là, qui était sous le radar depuis le début de la saison. Personne n'en parle, personne ne se méfie d'eux autres. On pense que les meilleures années sont passées, avec peut-être raison. Mais il gagne, puis il gagne, puis il gagne. Puis il y a un certain Charlie Lindgren qui arrête des rondelles que tout le monde avait pas vu venir. Et puis, donc, c'est une belle surprise à Washington. C'est le fun de voir aller. Un match en main. Ils sont dans les séries avec un match en main sur les clubs qui sont en avant d'eux, dont les Flyers. Toute une surprise, puis c'est le fun de les voir aller.
Oui, ouais, c'est ça. Ben moi, deux choses qui me frappent. Là. D'abord, Ovechkin, troisième pour les buts depuis la pause du match des Étoiles. Donc, clairement, lui a vraiment retrouvé son niveau. Moi, ce qui m'a frappé dans les matchs du Canadien contre Washington, c'est Dylan Strome, que je trouvais qu'il était vraiment très, très, très visible. On dirait que c'est un joueur que, je sais pas, peut-être parce que, bon, il a beaucoup joué dans l'Ouest en début de carrière, donc on le voyait moins, mais il y a vraiment quelque chose, lui, je sais pas si lui aussi a eu son déclic. Puis je parlais depuis le match des Étoiles, mais lui, il a 27 points en 23 matchs depuis le match des Étoiles. Alors ça, c'est quand même tout un rythme sur un échantillon qui commence à 23 matchs, c'est un peu plus qu'un quart de saison. Donc, tu sais, c'est un échantillon qui devient intéressant. Alors moi, lui, franchement, il m'étonne. Je pensais pas qu'il y avait ce niveau-là supplémentaire à aller chercher dans son jeu. Et l'autre chose qui est étonnante vraiment dans le retour des Capitals, c'est le fait que ça survienne tout ça après qu'il ait été vendeur à la date limite des transactions.
Exact.
On sait quel effet que ça peut avoir sur une équipe. Ils ont perdu Anthony Manta, ils ont perdu Joel Edmondson et Kuznetsov. Là, bon, on sait que c'est un cas à part, là, Kuznetsov, mais quand même, je veux dire, ils ont seulement perdu des joueurs, ils n'ont rien obtenu en retour d'immédiat pour les aider. Alors, en ce sens-là aussi, bravo. Puis bravo au personnel d'entraîneur qui a réussi à remettre tout ça ensemble et à faire en sorte qu'on va peut-être avoir finalement un printemps inespéré à Washington.
Et tout ça se passe sans Tom Wilson, qui a donné un scientifique coup de bâton en plein visage aux joueurs des Leafs de Toronto, qui est suspendu pour 6 matchs. Sincèrement, j'ai l'impression que ça a shaké le pommier, tout ça, la date limite des transactions, puis il y a quelqu'un en dedans qui a dit là, hey, ça fait-tu, on commence ça à jouer tranquillement pas vite.
On a l'impression que c'est comme dans le film Major League.
Ben oui.
Souvenez-vous, là,
ben
que oui, c'est le club qui devait jamais gagner, puis finalement, je sais pas trop, ils faisaient des transactions, ils échangeaient les bons joueurs, puis tout ça. Puis là, l'équipe se soudait entre elles, puis finalement, gagnait contre toute attente. Mais moi, je pense que c'est pour ça qu'Ovechkin est soudainement bon. Et cette équipe-là joue des matchs significatifs à un moment de l'année où elle ne devait pas en faire. Tu sais, dans toutes les histoires de sport, là, quand t'as le négligé qui soudainement est en train de battre la tempête, puis t'sais, d'aller à contre-courant, il y a comme quelque chose de très romantique là-dedans. Il sait que c'est probablement la dernière fois de sa carrière qu'il risque de jouer dans les séries. Donc, je pense que tout ça est lié ensemble un petit peu.
Bon, vous savez que Alexandre était malade, a eu le temps beaucoup d'écouter Netflix, donc c'est pour ça qu'il nous fait une référence aux fans de sport.
Major League, ça fait partie de mon identité.
C'est un classique des classiques. Les gars, on se parle de John Tortorella encore une fois. Ça fait la deuxième fois qu'on va se parler de Tortorella. Dans le balado, on a parlé la semaine passée. Dans une défaite des siens où son gardien de but a été assez médiocre, on a posé une question, un journaliste pose une question à John Tortorella sur son gardien de but et sa réponse a été rien. Il n'a rien répondu, lève les bras puis il fait...
Et il s'en va.
Ouais. OK, donc ma question est la suivante. Donc Tortorella ne répond pas et quitte suite à une question sur le mauvais match de son gardien de but. Est-ce que la Ligue nationale doit s'impliquer là-dedans? Guillaume?
Je ne pense pas, honnêtement.
Tu trouves pas qu'il faut que ça arrête ce show-là?
Ben, je veux dire, il le fait de temps en temps, mais c'est pas à répétition. Là. Je sais pas, évidemment, à chaque fois qu'on le fait, on le remarque, on en parle, puis ça fait le tour. Mais moi, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai pas de problème. Premièrement, on est le lendemain, on en parle encore. Je pense que tout journaliste qui était dans la salle, qu'il soit à l'écrit ou à télé, est reparti avec quelque chose. T'es à télé, tu montes Tortorella qui fait des grimaces, lève les bras, qui s'en va. T'es à l'écrit, ben tu racontes tout ça. T'as quelque chose et pour avoir couvert plusieurs entraîneurs au fil des années, entre John Tortorella qui fait ça, que bon, de temps en temps, il va te sortir une réaction comme ça, et et je m'excuse, c'est peut-être un très bon monsieur, mais Travis Green, c'est probablement l'entraîneur le plus plate que j'ai vu de ma vie. Puis je veux dire, on lui parlait, puis mon Dieu, c'était épouvantable. Puis on sortait de là, puis c'était comme un défi de rester concentré parce que c'était ça. Il était très, il voulait pas rien dire de déplacer ou rien. Puis c'est pas quelqu'un non plus particulièrement expressif. Donc tu sais, c'était difficile pour nous. Puis il était courtois puis tout. J'ai pas de problème avec ça, mais c'était difficile d'en ressortir du matériel intéressant après ça pour les amateurs qui nous lisent. Alors, c'est pour ça qu'en ce sens-là, j'ai pas de problème. Il s'en est pas pris au journaliste comme tel. Je veux dire, la victime dans tout ça, c'est son gardien, puis c'est à lui de s'arranger avec son gardien après. Mais je veux dire, c'est ça. Il s'en est pas pris au journaliste. C'est pas, donc c'est pour ça que moi, en ce sens-là, j'ai pas de problème. Évidemment que faut pas qu'il fasse ça toutes les semaines, là. Mais une fois de temps en temps, c'est correct. Ça donne un show. 24 heures plus tard, on en parle encore, puis on est même pas dans son marché. Donc, pas de problème.
OK. Stéphane, si ton coach fait ça dans un point de presse, qui pitch son gardien de but en dessous de l'autobus de cette façon-là, le coach Egola, parles-tu au coach après? Dis-tu quelque chose?
Ben, c'est clair. Et puis, je pense que c'est drôle. C'est drôle la manière qu'il a décidé de ne pas répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire hey, arrêtez de blâmer mon gardien de but ou c'est vrai qu'il était tellement pourri que je veux même pas en parler. C'est quoi que ça veut dire, ça?
Ces deux réponses avant ça, il a répété à quel point que l'équipe avait bien joué,
Que l'autre gardien de but avait été bon.
Oui, c'est ça, okay. Exact.
Non, mais attendez, c'est Félix Sandstrom qui a accordé 3 buts sur 14 lancés. Ça a donné un pourcentage d'efficacité de 786. C'est une défaite de 4-1 face aux Panthers. Après, il est là, puis il lève les bras en voulant dire... J'ai comme l'impression, en voulant dire, vous l'avez vu autant que moi. C'est ça qui est arrivé. Il était pas bon, là.
Mais ça aurait été quoi de dire, écoute, Félix a eu un match difficile. Pas la fin du monde, ça, c'est tout. That's it. Mais la façon que Tort réagit, premièrement, là, je pense que c'est plus aux Flyers de dire, écoute, Tort, là, de temps en temps, là, c'est ta job de répondre aux questions. Puis notre marché à nous, nos médias, nos fans veulent avoir des réponses de temps en temps. Tu peux pas tout le temps dire, non, moi, je parle pas, je commande pas ça. Ça, c'est peut-être aux Flyers eux-mêmes d'approcher Tort. Mais malgré tout ça, à 65 ans, après 21 années dans la Ligue nationale comme entraîneur-chef, c'est pas aujourd'hui qu'il va changer.
Clairement.
Ça, là, il s'en fout. Ouais. Et puis lui, dans le fond, il dit, Garbo, ma carrière est quasiment faite. Là. Donc, si vous n'êtes pas content, là, dites-moi lui, puis je vais aller chez nous. C'est le même qui s'en fout. Ouais. Mais écoute, non, c'est... Puis le pire, là, c'est qu'on parle de Tortorella cette semaine. On en a parlé la semaine passée,
exact,
dans le cas de
Couturier.
Et puis, je vous dis, quoi les boys? On va en reparler encore plus tard.
Il y a des chances. Alexandre, ton point.
Moi, je pense... La Ligue n'a pas à intervenir pour ça. Clairement pas. À mon avis, le club a éventuellement faire une intervention avec lui parce que, tu sais, que le coach réagisse comme ça, puis c'est drôle, c'est irrévérencieux, c'est à l'image des Flyers. Tu sais, leur mascotte varge des enfants, là. Je veux dire, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, ça fait partie du système.
Ils ont eu le Père Noël.
Ben ouais, oui, c'est ça. Non, mais tu sais, ça fait partie, là, de la dynamique à Philadelphie. La seule chose, c'est... Ça, t'sais, chaque geste, l'accumulation de gestes, de mauvaises décisions de gestion, parce que c'est le cas là, t'sais, de Tortorella, puis là, il lance quand même son gardien en dessous de l'autobus. Il n'y a aucune chance que Sandstrom écoute le point de presse, puis s'il comprend l'anglais, il ne comprend pas l'anglais. Il n'a pas dit un mot, Tortorella. Là,
il n'a rien à comprendre.
C'est sûr que Sandstrom a compris qu'est-ce qui se passe là, quand même. Là. Je veux dire, il y a des pots cassés toutes les semaines. Je veux dire, puis être là, les autres entraîneurs, être les joueurs dans le vestiaire, être le DG, ça doit être essoufflant, là. Avoir un boss de même autour de toi, puis qu'à chaque fois qu'il parle, t'as peur esprit qui fouette tout le monde.
Oui, mais ils sont quand même, série en ce moment. C'est une équipe, moi, que je voyais.
Oui, mais est-ce qu'ils sont en série à cause de Tortorella ou à cause des joueurs?
Ils ont été vendeurs.
Ouais,
ils ont quand même
Sean Walker, notamment, qui est bon.
Ben oui, mais ils sont là. Il y a des résultats pour la corrélation.
Oui, mais est-ce que les résultats sont là? Tu sais, est-ce qu'il aurait peut-être même été meilleur si Tortorella faisait pas tout aussi, là?
Je
sais pas de lien de causalité entre les deux.
Moi, je trouve qu'ils soutirent le maximum et bien au-delà de cette équipe-là.
Ils tirent tout le jus qui est à sortir de cette équipe-là.
C'est ça. Je sais pas si sa recette va durer, par exemple. Ça se peut qu'on soit assis ici l'an prochain, exactement, dans 365 jours, puis qu'on parle de son congédiement. C'est fort, c'est possible. Je veux dire, je pense pas qu'un tu peux durer 4-5 ans avec le même groupe de joueurs en agissant comme ça.
Peut-être en 1972, mais pas avec la génération actuelle qui pose comme question pourquoi tout le temps, à chaque fois qu'ils sortent un shift, à chaque fois qu'ils sont pas là, puis c'est bien correct, là, je veux dire. C'est normal de poser des questions puis de savoir pourquoi je suis benché, pourquoi j'ai été enlevé de l'avantage numérique, pourquoi je suis capitaine, que 34 jours après que tu me nommes, tu me sacs sa galerie de presse.
Hey, ils ont monté un gars de la Ligue américaine à un moment donné et écoute, je sais pas si j'ai Burks dans la tête, je sais pas si c'est ça. Le gars est sur la patinoire et Tortola l'engueule comme du poisson pourri en disant « Sors de la glace! Je t'ai dit, sors de la glace! Viens t'asseoir! » Et là, je suis de même, ben voyons donc, pauvre petit gars. Le gars, je comprends que ça soit des adultes, là, mais à un moment donné, t'es un gars enragé de même devant toi avec un plâtre dans la main et t'as peur qu'il te frappe avec. Ah!
Je pense que ce qui est le plus dommage dans tout ça, pour revenir à ce que je disais, qu'il durera peut-être pas, c'est qu'on va être malheureusement, je le crains, privé de Tortorella qui coach Medjkov quand il va arriver en Amérique du Nord. Quelque chose me dit que ça aurait été pas ennuyant, disons, comme relation.
Non, mais tu sais, c'est comme quand on écoute. Je vais faire une autre référence culturelle, car j'étends ma culture. Mais tu sais, c'est comme quand il y avait Scoop qui jouait. Qui dépeignait l'univers des journalistes, puis t'avais le chef de pupitre qui était un petit peu l'équivalent d'un coach, tu sais, qui pétait des colères tout le temps, tu sais, genre, il pogne sa souris, puis il pitch dans le mur, puis là, t'as l'impression qu'à cause de ça, on va faire un meilleur journal, tu sais. Mais c'est un petit peu ça, Tortorella, comme tactique, là, c'est comme de l'intimidation, c'est de parler fort pour obtenir des résultats. Mais tu sais, au final, est-ce que c'est à cause de ça qu'ils sont bons ou c'est parce que les joueurs sont bons? Je ne sais pas.
Voilà une grande question. On va s'arrêter là-dessus. On va passer à ça durant la pause. Puis au retour, on va se parler de la LHJMQ. C'était la fin de la saison régulière en fin de semaine. Et là, écoutez bien ça. 32 combats cette saison. Il y en a eu 106 l'année passée. Diminution drastique du nombre de combats cette saison dans la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Et en même
temps,
merci. Et en même temps, on s'aperçoit que les assistances sont à la hausse de 5 %. Est-ce qu'on doit faire un lien? On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone saison 5, épisode 48 avec Alexandre Pratt, Guillaume Lefrançois, Stéphane White. Les gars, c'était la fin de la saison ce week-end. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup moins de combats cette année avec la réglementation qui est plus sévère. 32 combats seulement. Je pense qu'en fait, c'est 31 durant la saison. Il y a eu un combat dans les matchs préparatoires. Ça fait 32 au total versus 106 l'année passée. Et il y a une augmentation de 5% de l'assistance. Et là, je vous dis, là, depuis 2018-2019, c'est la première fois qu'on dépasse le cap des 2 millions de spectateurs pour les matchs. Est-ce qu'on doit faire un lien? Moins de combats, plus de spectateurs, Guillaume?
Ben, ça fait des années, en fait, qu'on remarque cette tendance-là. Puis ça, là-dessus, c'était Stéphane Leroux, notre collègue d'RDS, qui suit le hockey junior depuis 35 ans, le souligne tout le temps, qu'à chaque fois qu'il y a des, tu sais, d'année en année, la diminution des combats n'entraîne pas la fameuse baisse des assistances que les propriétaires d'équipes ont en l'air de craindre. Alors, est-ce qu'il y a un lien direct? Je ne sais pas, mais ce qui est clair, c'est que ça n'a pas, en tout cas, la crainte des propriétaires n'est pas avérée. Donc, je pense qu'en ce sens-là, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc, disons que ça règle une partie de l'équation de la nouvelle réglementation, qui était, à mon avis, la partie de l'équation la plus futile. C'est-à-dire que, c'est ça. Si votre modèle d'affaires était basé sur faire payer les gens pour venir voir des ados se taper sa gueule, ben c'est peut-être que le modèle d'affaires n'était pas bon.
OK, fini la House of Pain. OK, Stéphane White dit le Grinch. Je t'écoute.
Il y en a fait qui est certain.
Oui.
C'est que pour personne qui se sont dit, moi, je ne vais plus voir le junior parce qu'il n'y a plus de bataille. Ça, c'est clair. Regarde, on a eu une augmentation. Donc, ça, c'était bon signe. Et il a choisi. Mais là, de là à dire, je vais avoir du junior parce qu'il n'y a plus de bataille, ça, c'est un autre débat. Donc, le 5 % d'augmentation. Mais il y en a fait qui est sûr, c'est que j'aime la formule de pas. Puis on s'est fait critiquer beaucoup au Québec par rapport au reste du Canada. J'ai été allé voir un match à Sherbrooke il y a à peu près un mois et demi. Et même un dépisteur, j'ai parlé à un dépisteur qui n'est pas un dépisteur québécois, c'est un dépisteur qui venait de l'Ouest. Il dit, j'ai hâte de voir si ça va avoir un effet au repêchage. Et puis, je l'ai regardé en voulant dire, as-tu déjà repêché en Europe, toi? Il dit, oui. Ben, il dit, ils n'ont pas le droit.
Exactement.
NCAA, as-tu déjà repêché à la NCAA? Il dit, oui, ils n'ont pas le droit de se battre. Mais en plus, à la NCAA, ils jouent avec une grille. Et puis, tout ça pour dire que tout ça, là, c'est... à cette heure, on a prouvé qu'on pouvait jouer au hockey sans bataille au Québec. Et puis, non, je pense que c'est une réussite. Autant au niveau, là, tu parles des assistances, mais aussi là, du développement des jeunes. Regarde, moi, là, vous savez tout, là, j'ai déjà été un gars qui aimait ça, là, les batailles. Mais là, voir des batailles avec des ados, là, ça, là, honnêtement, des dernières années, j'ai trouvé ça difficile à regarder.
Ouais, c'est drôle ce que Stéphane dit, par contre, au sujet de ce que le recruteur disait, parce que c'est une perception qui est malheureusement très tenace, même auprès des joueurs. L'an passé, quand la nouvelle réglementation avait été annoncée, moi, j'étais à Buffalo pour le Combine, le camp d'évaluation des espoirs en vue du repêchage. Et j'avais posé des questions à quelques joueurs, justement, du Québec. Et les joueurs semblaient pas enthousiastes. Il y en avait qui disaient, tu sais, souvent, on se fait dire que notre ligue est plus soft, tu sais, que notre ligue est moins tough, tout ça. Puis ça va juste empirer cette perception-là. Donc, il y avait des joueurs là-dedans qui étaient craintifs de ce que ça causerait comme perception. Quand on sait que c'est ça, comme Stéphane l'a très bien dit, c'est des perceptions qui sont ridicules parce que c'est le seul endroit où des joueurs de cet âge-là peuvent se battre. Donc, c'est...
Juste ajouter un point, j'ai eu la chance de parler avec Mario Cicchini, qui est commissaire de la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Cette année, je pense pas que c'est une grande cuvée pour le repêchage.
Non,
fait que donc, il faudra pas faire de lien en disant « Ah, il y a pas de bagarre, il y a moins de gars repêchés. » Ça tombe juste comme ça. Fait que, tu sais, on respire par le nez, on se mettra pas à juger le hockey québécois en général sur le nombre de joueurs de la Ligue qui sont repêchés dans la Ligue nationale. Je pense que c'est juste pas une grande cuvée. Je veux savoir, Alexandre, de ta façon que tu vois ça, avec l'expérience que tu as, est-ce que tu penses que les autres ligues vont embarquer là-dedans, Mané? Est-ce que tu penses que l'Ontario, est-ce que tu penses que l'Ouest vont embarquer là-dedans?
Ils vont embarquer juste s'il y a de la pression politique. Donc, juste si, par exemple, au niveau fédéral, on décide que ça prend une nouvelle loi, par exemple, pour protéger les enfants. Ben, les enfants, je parle des gens de moins de 18 ans, là. Et qu'il y a une volonté d'y aller. Puis Isabelle Charest, la ministre québécoise, a vraiment poussé là-dessus. À l'époque, c'est Pascal Saint-Onge qui était la ministre du Sport au Canada.
Elle a rendu compte Facebook maintenant. Non, mais c'est vrai, Pascal Saint-Onge, j'ai rendu au patrimoine.
Oui, oui, excusez-moi. Okay, oui,
compte Facebook. Oui, alors, chez Bagarre, un compte Facebook.
Non, mais Isabelle Charest avait vraiment beaucoup poussé là-dessus. Puis elle a beaucoup essayé d'embarquer les autres provinces avec ça. Ça n'a pas. Tu sais, il n'y a pas eu de traction. Maintenant, c'est le cas dans plusieurs provinces parce qu'il n'y a pas juste le Québec, il y a toutes les provinces maritimes aussi. Mm-hmm. Désormais, ce code-là est appliqué là, pour les matchs dans les maritimes. Donc, il y a plus de chances que ça arrive, mais j'y crois moyen. Tu sais, on va le voir quand il va y avoir les tournois de la Coupe Memorial, tu sais, quelle réglementation va s'appliquer, puis je pense que ça va être la Ligue à domicile, en fait, là, que ça va être les règlements de la Ligue à domicile qui vont s'appliquer, mais j'ai hâte de voir comment tout ça va s'appliquer sur le long terme, mais je pense que ça va prendre du temps, tu sais, je pense pas que l'année prochaine, toute la Ligue canadienne soit...
Faudrait pas qu'il y ait un club de la Ligue d'hockey junior maritime du Québec qui gagne la Coupe Memorial, et
juste dire que les dernières Coupes Memorial ont été remportées par qui?
C'est ça, ici.
Il se fait des bonnes choses. Là. Je veux dire, on chiale énormément contre le hockey québécois, puis il y a plein de raisons de chialer, là, je veux dire, notamment pour les gens qui chialent contre l'arbitrage et tout ça, mais il se fait quand même des bonnes choses. C'est pas parce que les joueurs individuellement torchent pas dans la Ligue nationale ou sont pas comme dans le top 3 du repêchage qui se fait nécessairement que des mauvaises choses au Québec. Il y a des beaux succès, notamment au niveau des assistances cette année. Et moi, je pensais notamment avec les journaux en région là, qui n'ont plus d'édition papier. Moi, je m'attendais à ce que ce manque de visibilité-là nuise beaucoup à la Ligue. Il y a quand même des marchés où ça va encore bien.
Drakkar de Bécomo, c'est une saison de plus de 100 points avec un jeune de 17 ans, Justin Poirier, qui en met 50 dedans.
Ouais,
dernière fois que c'est arrivé ici, c'est Sidney Crosby. Écoute, je pense qu'on est en business. Ouais, j'ai bien hâte de voir ce que ça va faire à la Coupe Memorial. Bon, ben voilà ce qui complète le balado sortie de zone, épisode 48 de cette cinquième saison. Je remercie Guillaume Lefrançois, toujours un plaisir.
Merci, Gérard.
Alexandre Pratt, allez vous reposer, M. Pratt. Là.
Merci, M. Pratt.
Prenez une petite gorgée d'eau, ça va faire du bien. Stéphane, ouais, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci, les gars. Bonne semaine.
Merci. Au revoir. Ce qui complète donc ce balado sortie de zone. Nous, on se parle vendredi le 29 mars, vendredi saint, et il n'y aura pas de bagarre. Vraiment, il n'y aura pas de bagarre.